France Culture.
Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de la fraternité musulmane. Mais la fraternité musulmane au sens d'une appellation, c'est la dénomination d'une association méconnue ou effacée des mémoires ou occultée. L'association Loi 1901, fondée en 1907 et qui était par la suite, à partir de 1925 et au-delà, un peu mise en veilleuse, et puis elle s'est éteinte progressivement. Et pour parler de cette association, j'ai grand plaisir à accueillir Sadek Selam. Sadek Selam, bonjour.
Bonjour, merci.
Bonjour, vous êtes connu comme un chercheur ayant une grande connaissance de l'islam contemporain. Vous êtes un historien du fait islamique en France et de par le monde, et vous vous intéressez à cette période-là, du temps où il y avait à la fois une véritable islamophilie dans la seconde moitié du 19e siècle, en dépit de quelques prises de position d'un Ernest Renan ou même d'un Chateaubriand avant, et de l'autre côté une francophilie, puisque vous me disiez en préparant cette émission qu'on parlait de la France comme Daoula Habiba, État ami, nation amie, et donc c'est dans ce contexte globalement qu'il va y avoir la création ou la fondation de cette association, la Fraternité musulmane, fondée par des intellectuels de renom, du solide, comme vous l'aviez dit aussi encore une fois. Elle a été fondée le 27 juin 1907, déclarée à la préfecture de la Seine le 16 décembre 1907 et elle paraît au journal officiel le 18 décembre 1907.
C'est sans doute la seule association dont les fondateurs ont éprouvé le besoin de la faire connaître à la Bibliothèque nationale. Et le fondateur, Mahmoud Salem, sur lequel on ne connaît absolument rien, en dehors de quelques écrits, a rédigé une plaquette qu'il a remise à la Bibliothèque nationale pour signifier qu'il s'agit d'activités intellectuelles.
Et uniquement intellectuels, dans leur objet, ils disent « Nous, ça ne nous intéresse pas de faire de la politique. » Et d'ailleurs, pour pouvoir faire de la politique, il faut quand même un fond intellectuel et culturel. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les aspects intellectuels et culturels.
Absolument. C'était des musulmans, la plupart orientaux, ou qui venaient du Caucase, des Iraniens, qui avaient un très grand optimisme, ils espéraient beaucoup en la France, jusqu'à l'arrivée du seul nord-africain de l'association, c'était Ahmed Bahloul, qui a essayé de les sensibiliser à la gravité des situations coloniales.
Et Ahmed Bahloul est le premier agrégé en sciences physiques venant, comme on dit maintenant, du Maghreb.
C'est le premier, il a une histoire assez originale, parce que c'était un instituteur adjoint. Parce que à l'école normale de Bouzeraïa, il y avait un double collège. Lui, il est sorti du cours normal qui formait des instituteurs adjoints indigènes quand il n'était pas naturalisé. Et il s'est marié à une élève de la même promotion de l'école normale. Et il y avait ce qu'on appelait le tiers colonial à l'époque. Elle gagnait 33% de plus que lui. Il y avait de temps en temps des scènes de ménage.
Et elle lui faisait savoir.
Et
lui
dit, c'est elle qui l'entretenait. Et un jour, il en a eu marre, il a pris son baluchon, il a embarqué pour Marseille. Il est monté à Paris, il a été reçu à la grecque de physique du premier coup. Et puis, il était à l'école de chimie, pas très loin. Il a fini au collège Sainte-Barbe, l'école de chimie pas très loin, où on lui doit des brevets. Il a eu des inventions. Mais il se contentait pas du succès professionnel, et il se souvenait de ses frères qui n'étaient pas naturalisés, qui n'étaient pas montés à Paris. Et c'est pour ça qu'il s'est engagé de manière... Bon, après, Messali Hadj, même Farhat Abbas le trouvait trop modéré, parce qu'il fréquentait beaucoup les allées du pouvoir, de la social-démocratie, surtout après 1924. Il était toujours chez Marius Moutet, qui était le ministre des colonies, qui voulait... Mais il réclamait les droits, un peu à la manière de Farhat Abbas, la génération d'après.
Par la citoyenneté et dans certains cas, même par l'assimilation.
Farhat Abbas, c'était pour une assimilation électorale seulement. Mais comme il défendait l'islam et la langue arabe, dans tous ses documents, il suscitait une grande méfiance chez ceux qui souhaitaient un assimilationnisme intégral. Or, Bahloul, il a vu cette association qui parlait d'islam, et il fait partie des générations qui avaient une culture islamique. Donc les débats sur l'islam ne le laissaient pas indifférent, et on le retrouve dans le deuxième bureau de 1921, alors qu'il n'était pas en 1907, il n'était pas arrivé à Paris. Et donc, ils ont créé ce qu'on a appelé par la suite un espace d'expression intellectuelle et même scientifique de l'islam, mais en dehors de l'université, du cadre scientifique habituel, avec des moyens très très limités. Mais ils ont nourri une réflexion sur l'islam des musulmans, qui avaient une solide culture musulmane, mais qui étaient pour la modernité. Ils essayaient de concilier les deux. Et ils s'étaient rejoints assez rapidement, sans doute parce que la loi de 1901 exigeait un président français. D'où l'arrivée de Christian Scherfis, qui est un personnage hors du commun, mais oublié de tout le monde. Les deux tiers du livre, c'est des textes de Scherfis, parce qu'il était très prolifique. Il enseignait régulièrement dans ce qu'on appelait l'enseignement positiviste.
Parce qu'il était un comtiste, comme
il
on dit.
Il était un philosophe comtiste qui a, si vous voulez, la création de la fraternité musulmane et l'aboutissement d'un processus commencé trois décennies auparavant, exactement en 1877, quand les comtistes ont reçu chaleureusement le dernier grand vizir des Tanzimat, après l'arrivée du sultan Abdelhamid, qui a mis fin à la monarchie constitutionnelle. Il a renvoyé Mithat Pacha.
Oui.
Et il y a le texte fondateur qui résume l'islamologie comtiste et leurs recommandations de politique musulmane républicaine anticolonialiste, c'est dans l'adresse à Mithat Pacha, qui a été publiée dans leur revue. Et donc, ils ont proclamé leur anticolonialisme en restant fidèles à la recommandation de Comte. En 1832, il a dit « Il faut évacuer l'Algérie et confier dignement son gouvernement aux Arabes. »
D'ailleurs, à ce sujet... Et Christian Scherfis en parlera, de la fameuse bibliothèque positiviste doit avoir le discours de la méthode, la Bible, le Coran et la grande étude de Confucius.
Absolument. Et c'était pour se micheler à une autre appellation, la bibliothèque universelle. Et puis ils avaient leur calendrier où ils célébraient par exemple la fête de la fraternité. Et c'est Christian Scherfis qui était invité, il parlait de la fraternité de manière générale, mais à la fin, il commentait la sourate 12 de Joseph.
Avec ses frères, à ce sujet d'ailleurs, c'était le 11 de mémoire, c'était le 18 juin 1911, donc on est à 4 ans après la création de l'association La Fraternité Musulmane, et Christian Scherfis célébrait avec les positivistes la fête de la fraternité. Et dans son discours, il parlait de la fraternité d'une manière générale, ce qu'il appelle la fraternité naturelle au sein de la famille, et il prenait comme exemple Oreste et Électre, lorsque Oreste est revenu à Argos, et puis il parlait de la fraternité sociale, spirituelle, et il prend l'exemple effectivement de la sourate Joseph, en mettant en exergue à la fois les similitudes et puis les différences avec le récit biblique, et ce discours est resté mémorable, et il fait partie de l'héritage de l'association Fraternité Musulmane. Si je vous en parle, c'est pour dire qu'à l'époque, et au tournant du siècle écoulé, le XXe siècle, on pouvait parler de l'islam d'une manière apaisée, sereine, sans tintamarre ni vacarme tumultueux.
Absolument. Il y avait des deux côtés d'ailleurs, parce que c'était précédé par un numéro spécial de la revue célèbre qui s'appelait « Questions diplomatiques et coloniales ». Il y a un numéro spécial qui s'appelait « Avenir de l'islam ». Ils ont fait appel à tous les grands orientalistes européens, Gaultier, Brown, des Néerlandais, mais un Algérien, c'est Mohamed Barahal, qui a fait un article célèbre où il dit « En Algérie, quand le musulman ne fait rien, il est accusé de fatalisme. À la moindre velléité de faire quelque chose, on l'accuse de fanatisme, mais viendra le jour où il fera ce qu'il voudra sans se soucier des qualificatifs utilisés par les colons. » Et donc c'était quelqu'un de pur produit du lycée impérial, là, qui deviendra le lycée Bugeaud, bilingue, licencié en droit à Paris, mais qui suscitait la méfiance quand on a découvert qu'il faisait partie de la confrérie des Darqawa. Qui était pas
une confrérie soufie, comme on dit.
Mais jugée indocile, contrairement aux autres confréries. Or, ce numéro spécial mérite d'être réédité, où ces grands spécialistes disent l'islam jouera un rôle dans la politique mondiale dans les décennies qui viendront. Et il y avait douté. Le seul qui était de s'occuper de l'Algérie, et il parlait de la France comme puissance musulmane. Et il terminait en disant, pour avoir une vraie culture d'honnête homme, dans le sens ancien...
18e, oui.
Oui, et il faut connaître l'islam. Or, les comtistes, 1895, ils disent l'islam, il vaut mieux qu'il soit enseigné par les musulmans.
Et il y en avait au moins... Pour qu'ils soient formés et bien connaisseurs de leur propre tradition.
Ah ben, ils avaient trois poids lourds. Il y avait Ahmed Reza qui était l'ami de Pierre Lafitte, le successeur de Comte, on l'appelait le directeur du comtisme. Et il y avait Ali Mumtaz, grâce à Ali Merhaj, j'ai découvert que c'était un élève d'Ahmed Khan.
Réformateur indien.
Indien, très moderniste, mais qui l'envoyait chez les comtistes britanniques. Il était très actif et il l'envoyait au Collège libre des sciences sociales. Et il y avait Ismail Hamet, qui était un interprète militaire algérien, devenu sociologue et historien. Et il y en a peut-être d'autres. C'est les trois que j'ai pu identifier. Mais là, à partir de 1895... les musulmans étaient tributaires d'un établissement qui n'était pas le leur.
Or, la fraternité... Ça ne serait pas, je le dis sous votre contrôle et je vous pose la question, ce n'aurait pas été Abdelrahman Belhafaf?
Il est venu après. Abdelrahman Belhafaf, son livre a été préfacé par Christian Scherfis, mais malheureusement le livre est paru après la mort de Scherfis. Belhafaf, il mérite... C'est les diplômés des Médarsa, il était qadhi, donc magistrat musulman à Blida. Il a quitté son poste pour se consacrer au problème de l'islam. Et Christian Scherfis, sans le connaître, il lui a envoyé une préface de Paris qui est sortie. Belhafef, dans la première page, il regrette que la mosquée de Paris ait été inaugurée en l'absence de Christian Scherfis, qui était mort quelques mois auparavant. Or, Christian Scherfis, c'était l'infatigable militant pour le projet de mosquée. et qui date de 1895.
Oui. Et pas uniquement comme récompense pour ceux qui avaient, qui s'étaient acquittés du tribut du sang.
Non, ça c'est Lyautey qui a inventé ça pour vaincre les réticences. Parce que le comité de 1895 a abandonné la partie au vu du tollé. Il y en a un qui a dit il faut profiter du passage des musulmans à Paris pour les désislamiser. Donc créer une mosquée, ça va les replonger dans les ténèbres de l'obscurantisme, etc. Non, le projet est ancien. Et quand tout le monde a abandonné la partie, les comtistes, donc représentés par Christian Scherfis, puis la fraternité musulmane, ont continué le combat. Ils ont même commencé une souscription. Et Scherfis, par exemple, on a sa conférence sur l'art. Lui, c'était son domaine de prédilection.
Il était le fils d'un peintre aussi.
Oui. Et il était spécialiste de l'esthétique positiviste. Et il a, à la fin de la conférence sur l'art, c'est l'art, vraiment, c'est un grand historien de l'art, et il finit par dire il est scandaleux qu'il n'y ait pas de mosquée à Paris, ça serait l'occasion d'introduire un art qui complète le nôtre. Et il se référait à la mosquée qui existait à Berlin depuis Goethe, et une mosquée à Wuxing.
Il et a une dit, mosquée à Vienne.
Oui, il n'était pas au courant. Il a dit est-ce que nous allons attendre que les Espagnols rouvrent les mosquées de Cordoue pour qu'on ouvre une mosquée? Et il a été l'artisan du premier projet. Pour lui, il fallait un institut d'études supérieures sur l'islam avec une mosquée. Et d'ailleurs, c'est le projet qui a bénéficié d'un crédit de 500 000 francs voté par le Parlement en 1920. Et quand le rapporteur de la loi était le radical socialiste Édouard Herriot, on lui a dit, comment vous qui êtes très laïque, etc. Il a dit, non, moi j'ai financé un institut, pas la mosquée. Or, c'est Lyautey qui s'est opposé à l'ouverture de l'institut, il ne restait que la mosquée. Et les recteurs successifs, jusqu'à la départ de Boubaker en 82, ont bénéficié de subventions à une mosquée au nom d'un institut qui n'a jamais fonctionné.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de la fraternité musulmane. La fraternité musulmane est la dénomination d'une association qui a vu le jour en 1907, parue au journal officiel le 18 décembre 1907, et dont les fondateurs et même dirigeants successifs était, comme vous le dites si bien, Sadr Selim, puisque c'est vous qui nous en parlez aujourd'hui, vous qui êtes ici. Et parmi ceux qui étaient derrière la fraternité musulmane comme association, nous parlions de Christian Scherfis, entre autres, pas uniquement lui, il y a Étienne Dinet. Et Christian Scherfis avait, avec deux ouvrages, Bonaparte et l'Islam, et puis, dans son étude « Le positivisme et l'islam », a une présentation, encore une fois, érudite, apaisée. Et là, cette association, la fraternité musulmane, a beaucoup contribué dans une meilleure connaissance de l'islam au début du siècle écoulé.
Absolument, c'est la Grande Guerre qui a tout bouleversé et qui a amené Mahmoud Salem, le plus francophile de tous les orientaux. C'était un juge des tribunaux mixtes égyptiens, après avoir fait partie de la mission des boursiers égyptiens à Paris. Et il a fini par revenir à Paris au moment, je pense, de l'arrivée du Khedive Abbas. Et il était notamment l'ami d'un orientaliste italien qui s'appelait Insabato, qu'il avait connu au Caire. Et dans le livre d'Insabato, publié en pleine guerre, « L'islam et la politique des alliés », il a envoyé un questionnaire à Mahmoud Salem sur les questions de l'époque. Et la question la plus inquiétante, c'était le djihad. Pourquoi ? Parce que le calife ottoman s'est rangé du côté de l'Allemagne et a proclamé le djihad.
Ce qui a amené... La djihad dans son acception guerrière et de combat sacré.
Oui, non, mais l'état-major français a réagi par des fatwas de commande qui sont consultables aux archives militaires, qui disaient que le vrai djihad qui mène au paradis, c'est sous le drapeau tricolore. Bon, donc c'était de bonne guerre. Mais Mahmoud Salem...
Et que l'instrumentalisation du sentiment religieux, y compris cette fois-ci en sacralisant le combat, pouvait aller de part et d'autre...
Absolument. Non, il y avait l'accent psychologique allemand qui utilisait un Tunisien d'origine algérienne, Salah Achrif, qui est parti jusqu'en Malaisie, aux frais de l'Allemagne, pour dénoncer le colonialisme français en Afrique du Nord. Or, Mahmoud Salem, c'était l'inverse. Dans sa fatwa, publiée par Insabato, il a dit « Le djihad est obligatoire pour libérer les territoires islamisés sous les quatre premiers califes. » Donc ça exclut l'Afrique du Nord. Parce que l'islam n'est arrivé que sous les Omeyyades. Et donc c'était une manière d'exprimer une exception pour la France. Donc... Massignon lui-même a critiqué cette fatwa. Il dit le califat universel. Mais après l'ébruitement des accords Sykes-Picot, la déclaration Balfour, on perd ses traces, mais on le retrouve avec l'émir Cheikh Ibrahim. On peut dire, avec la terminologie d'aujourd'hui, qu'il s'est radicalisé sous l'effet de la grande déception. Et puis surtout le bombardement de Damas par l'artillerie du général Gouraud, qui a mis fin à la première grande démocratie arabe, où il y avait, pendant les 18 mois où Faisal a été à Damas, il y avait une assemblée constituante présidée par Rachid Reda. Et l'idée de Daoula Madaniya, c'est un état civil, c'est-à-dire qui n'est ni militaire ni théocratique, qui a été reprise par la Tunisie après Ben Ali, on la doit à Rachid Reda. Et la formule qu'on attribue à des intellectuels coptes égyptiens, la religion c'est pour Dieu et la patrie
pour les hommes.
Pour tout le monde, elle vient de Rachid Reda. Donc Rachid Reda a défendu le capitaine Dreyfus, parce qu'il était francophone, il a écrit dans un journal, il a dit la France qui juge un officier uniquement parce qu'il est juif n'est pas la France que nous aimons. Or, après le bombardement de Damas, là aussi, Rachid Reda s'est radicalisé dans le vrai sens du mot, parce qu'il a écrit à la gloire du wahhabisme, et il est devenu l'intello de l'État wahhabite qui ne veut pas d'intellectuels, parce que c'était les Ikhwan qui étaient des militaires.
Mais sur un autre plan... Vous parliez de la démocratie arabe qui finalement n'a pas survécu. On parle aussi d'un ratage historique, c'est la monarchie constitutionnelle, dans un autre contexte, c'est celui de l'obédience chiite, celle de la révolution de 1906.
Oui.
Et là, ce sont des ratés de l'histoire.
Oui, mais c'était prématuré parce qu'il y avait les puissances impérialistes. Et puis la Russie, qui était le deuxième homme malade, mais qui constituait un problème pour ses voisins musulmans.
Et qui ne voulait pas d'une nation libre et d'un État démocratique à sa frontière sud.
Exactement. Tout ça a débouché sur la construction de la mosquée de Paris. La mosquée de Paris, on a célébré son centenaire là, il y a un an et demi, deux ans, mais en paraphrasant les discours d'inauguration de Lyautey. Mais il faut s'arrêter sur la nomination du général Gouraud à la tête du comité de mosquée. On l'a nommé après le carnage de Damas. Et les musulmans instruits à l'époque, puisqu'on les a sollicités pour cotiser, ils ont dit « la France veut faire oublier les carnages de Gouraud en inaugurant une mosquée en plein quartier latin ».
Alors, de cette association, la Fraternité musulmane, il y a encore un autre protagoniste connu, c'est Étienne Dinet.
Étienne Dinet était l'ami de Cherfis. Alors, Dinet, c'était vraiment l'exemple de pur produit de la bourgeoisie du Loiret, qui a été totalement, intégralement assimilé dans la société musulmane colonisée.
Notamment à Boussaada.
Il a choisi Boussaada pour la lumière, parce qu'il est, son père voulait qu'il soit notaire. Il a commencé des études de droit, après il lui a dit « je préfère la peinture à la procédure ».
C'était un condisciple d'Alexandre Millerand.
Oui. Et lui, il a été dans une excursion d'étudiants en Algérie. Et comme il était peintre amateur, au retour à Paris, il voulait peindre ce qu'il avait vu, mais la brume parisienne l'en empêchait. Donc, il profitait de la moindre occasion pour revenir et profiter de cette lumière du sud algérois. Et puis, il a fini par s'établir à Boussaada. Il a commencé, d'ailleurs, dans la notice que j'ai mise, j'ai mis l'article d'un critique d'art, Mauclerc, qui n'a jamais vu Dinet. Il ne connaissait que ses toiles. Il a dit, moi, j'ai jamais vu ce peintre, mais il est de plus en plus attiré par l'islam. Et ça, parce qu'il y avait l'étoile de transition, et puis après, c'est la peinture d'un musulman néophyte très fervent, qui s'est mis à l'arabe, qui s'est mis à défendre les indigènes quand il était reçu au gouvernement général, qui a été au pèlerinage. Quand il a été au pèlerinage, on a recueil de lettres publiées par sa sœur, Dinet Rollins, où il a dit « j'ai honte d'être français à la Mecque ». Parce qu'il avait les yeux clairs, il mettait la tenue traditionnelle, mais il dit « les pèlerins syriens me reconnaissent que je suis français, ils viennent avec leur chikaya, qu'est-ce que j'ai à leur dire ?»
Oui. En tout cas, l'évolution d'Étienne Dinet, du point de vue de son art, d'élève de William Bouguereau à un peintre orientaliste de plus en plus convaincu, en tout cas par le paysage et qui transparaissait dans son œuvre, montre aussi son évolution spirituelle.
Lui, bon, il s'est converti depuis 1912, mais il l'a confirmé au Cercle du Progrès qu'en 1929, peu de temps avant sa mort, et on a la chance de trouver les discours prononcés par Ahmed Toufiq al-Madani et le Cheikh al-Asimi, qui deviendra mufti. Et le discours de Toufiq al-Madani a dit « les musulmans sont au bas de l'échelle, ils n'ont ni argent, ni pouvoir, ni notoriété. Donc ce Français est venu vers eux, ils ne convoitent aucune de ses faveurs. Donc c'est par conviction ».
Oui. Alors, un autre membre important de la Fraternité musulmane, donc cette association, nous en avions parlé que très peu de Ahmed Bahloul.
Oui.
Il utilisait le terme et il croyait en la méritocratie de la République.
Absolument, il est le pur produit, malgré tous les obstacles. Et lui, il a réussi parce qu'il y avait un concours pour avoir la bourse. Et donc, il a traversé tous ces obstacles. Il est devenu professeur adjoint, instituteur adjoint, mais il ne supportait pas cette discrétion. On a un autre exemple, c'est Mohand Tazrout, beaucoup plus jeune que lui, qui a été instituteur un an, mais il ne supportait pas cette discrimination. Et lui est devenu un des meilleurs spécialistes de l'Allemagne quand il est venu en France. Or, Bahloul, il écrivait sur tous les sujets. J'ai choisi je dois rendre hommage à un professeur de Schleff, l'université que je connais pas, qui s'appelle Aswan, et qui a eu l'idée de rassembler le maximum d'articles de Bahloul. Il écrivait, par exemple, sur les incendies de forêt. Parce que les gardes forestiers, à l'époque, c'était plus dangereux que les gendarmes pour les indigènes. Mais son thème favori, c'était la représentation des indigènes au Parlement. Parce qu'on s'y attendait au nom de la Fraternité d'Armes de 1918. Mais après, il y a eu les réformes. Clémenceau a refusé cette réforme. Et à chaque fois qu'on relançait cette revendication, on leur disait, mais on vous a ouvert une mosquée à Paris, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et lui, il dit, on peut pas maintenir les indigènes comme électeurs, mais non éligibles. Donc il a fallu l'ordonnance du 7 mars 1944 du général de Gaulle pour permettre l'arrivée au Parlement au compte-goutte de certains indigènes en Burnous.
Oui. Pour revenir donc à Bahloul, Ahmed Bahloul, il a assisté à la conférence donnée ou prononcée par l'émir Khaled, qui est le fils de l'émir Abdelkader. Et c'était donc à Paris en juillet 1924. Et là, il est devenu khalédien, en quelque sorte, un partisan de la pensée ou de la vision du monde de l'émir Khaled.
Et il a été un des fervents khalédiens, mais il n'a pas été à la deuxième conférence, parce que la première, les autorités ont estimé que Khaled, qui était un héros de la guerre mondiale, Khaled était utilisé, était capitaine de Spahi, il a refusé d'avoir le grade de colonel, parce qu'il refusait la naturalisation. Mais on l'utilisait pour calmer les autres compagnies de tirailleurs dont on craignait la désertion. Donc lui, il avait une voix, et puis avec le prestige de son grand-père, mais dans son discours, parce qu'il avait gagné les élections locales en Algérie en 1919-1920, et on les a annulées. On les a annulées, pourquoi? Au nom de la laïcité. Ils disent il a abusé dans l'usage de versets coraniques dans ses discours. Et on l'a expulsé en Orient. Alors il a fallu la victoire du cartel des gauches en mai 1924 pour qu'il soit autorisé à venir ici. Et Bahloul a fait partie du comité d'accueil avec Belroul, qui était là depuis 1916. Mais à la deuxième conférence, Bahloul
n'était pas présent. Et pas donc présent. Le petit-fils de l'émir Abdelkader, l'émir Khaled, commençait à soupçonner, si on utilise les termes de maintenant, de radicalisation.
Il était soupçonné de radicalisation. On l'accusait d'avoir fréquenté trop les communistes, qui étaient contre la guerre du Rif.
Et donc quel type de radicalisation, religieuse ou politique?
Les deux, parce qu'il tenait avant il tenait un discours modéré, comme on dit maintenant, acceptable, bien élevé, mais là il était encouragé par c'est un peu ce qui s'est passé en 36
avec Maurice Violette quand oui. Ahmed Bahloul rencontre l'ancien gouverneur d'Algérie.
Oui, il était toujours fourré chez ces types. Il croyait à des droits octroyés par la social-démocratie. Bon, c'était la génération de l'époque, c'était par rapport aux autres qui se taisaient dans leur village d'origine, c'était un grand progrès. Mais après, il était la bête noire de la République algérienne, Boumendjel, Abbas le critiquait, ils disent, c'est quelqu'un qui croit régler un grand problème mondial en allant dans les cabinets ministériels. Mais Bahloul est resté, il a créé un journal qui s'appelait Le Peuple Algérien, dont on a quelques numéros, où il était très ferme dans ses revendications. Il y a un article qui dit on dirait que la France veut perdre l'Algérie. Quand il y a eu une suite de refus, de réformes, tout à fait acceptables, mais qui étaient refusées sous la pression du lobby de Colomb. Et donc Bahloul, c'est un personnage très intéressant, qui intéresse l'islam, les jeunes musulmans d'aujourd'hui, parce que c'est une revendication pacifique, qui bannit tout recours à la violence, même verbale, mais fondée sur un plaidoyer d'ordre moral et juridique. Et donc si on veut vraiment régler les problèmes de l'islam d'aujourd'hui, il faut s'inspirer de ces exemples, beaucoup plus que de ceux qui se radicalisent.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de la fraternité musulmane, pas comme concept en tant que tel, bien qu'on puisse le faire, mais on parle de l'association dénommée ainsi, la fraternité musulmane. C'est une association créée par des intellectuels musulmans dont Christian Scherfis, Étienne Diné, Ahmed Bahloul, le premier physicien maghrébin, et Mahmoud Salem, qui en fut à un moment donné aussi le secrétaire général, Sadak Salam.
Oui.
Sadak Salam, qui nous en parle, est un historien de l'islam contemporain. Pour cette dernière partie, Sadak Salam, quelles sont les résonances qui peuvent y avoir entre la fraternité musulmane, cette association du premier quart du siècle dernier, et maintenant, c'est-à-dire que l'objet de l'association était l'instruction, l'acquisition du savoir, la connaissance. Toutes les conférences et tous les cours sur l'importance de l'art, notamment par Christian Scherfis et par d'autres, pour polir l'âme du jeune musulman ou de la jeune musulmane.
Et il y avait ça, et il y avait aussi un véritable ijtihad.
Oui, l'effort d'interprétation intellectuelle, oui, cérébrale.
Parce que le texte qui résume, c'est le dernier texte de Scherfis de 1923, publié dans les revues qui continuent à être financées au nom de la fraternité d'armes de la Grande Guerre. Il s'appelle de l'esprit de modernité dans l'islam. Et c'est un texte d'un très haut niveau théorique où il recense les possibilités d'adaptation de l'islam au monde moderne. Et il a recensé toutes les chicayas
classiques.
Laïcite, l'usure, la polygamie, il y a une dizaine, il répond point par point. Et sur le plan politique, il considère que l'islam n'est pas une théocratie. Et là, c'est tous les kantistes. Ahmed Reza était sur cette ligne. Il considère que la vraie démocratie dangereuse, c'était le régime tsariste allié avec l'orthodoxie, l'église orthodoxe. Mais il considérait que le système du califat n'était pas une théocratie. Parce qu'il y avait c'est des développements, il y avait le grand vizir, il y avait le diwan des ulama, il y avait le calife.
Oui,
c'était trois pôles de pouvoir.
Et avec une certaine autonomie pour l'un ou l'autre. Le vizir pour l'exécutif, le corps des oulémas et ce collège, c'est un peu pour une sorte d'instance religieuse en théorie qui aurait dû, et à un moment donné de l'histoire, être autonome. Et le calife, c'est un peu comme le garant de tout ça, de la stabilité de l'ensemble.
Oui, alors Diwan des ulama avait un pouvoir qu'il a perdu. Par exemple, il a fait reculer Salim Ier quand il voulait convertir de force les orphelins des Balkans chrétiens pour en faire des soldats. Et le Diwan des ulama lui a invoqué le verset « Nulle contrainte en religion » et il a reculé. Ça n'a pas empêché des successeurs de le faire. Mais ils n'ont pas été emprisonnés pour avoir rappelé à l'ordre le calife. Et donc, sur le plan, Christian Scherfis a recensé les virtualités de modernisation de l'islam sans perdre son âme.
Il parlait aussi des contrastes apparents, parce que ce n'est qu'en apparence, entre l'islamisme, mais dans son acception de l'époque, pas de maintenant, et le positivisme.
Alors, il a exhumé la partie de la pensée de Comte sur le religieux, qui est absente. Parce que maintenant, quand on dit positiviste, ça veut dire anti-religion. Oui. Or, lui, Pierre Lafitte et Charles Mismer restaient attachés à la pensée religieuse de Comte qui était évolutive. Alors, quand il y a un des textes qu'a exhumé Christian Scherfis, qui dit « L'esprit positif aura besoin de l'esprit religieux ». Parce qu'il a, au début, il a dit « Il faut se contenter de la religion de l'humanité, fondée sur l'altruisme ». La recommandation de respect et sympathie pour l'islam, de Comte. Et il a dit « Parce que c'est une religion qui demande le maximum d'altruisme à ses adeptes avec le minimum de métaphysique ». On n'a pas besoin d'être un grand...
C'était la religion qui était, pour lui en tout cas, avec une métaphysique la moins coûteuse en données irrationnelles.
Absolument, oui. Kant a dit, l'esprit religieux pourra venir en aide à l'esprit positif. Il a admis les insuffisances de son système. Et il a dit, c'est la branche intellectuelle de l'Église catholique, c'est-à-dire les jésuites, qui viendra en aide à l'esprit positif. Et après, l'islamisme. Dans un deuxième texte, il dit non, l'islamisme sera plus d'abord, en premier, utile à l'esprit positif.
Or, encore une fois, l'islamisme dans l'acception de l'époque, pas de maintenant.
Oui, mais les politiques d'aujourd'hui ont introduit de grandes confusions. Un mot qui a servi pendant des siècles à désigner tout l'islam, on l'utilise pour désigner les courants qui font peur, c'est pas très scientifique. Or, Comte est mort prématurément, à l'âge de 59 ans, et Christian Scherfis a continué la pensée de Comte au point de devenir lui-même musulman. Il s'est prénommé Abdelhak. Bon. Et donc, on a besoin d'abord de compléter l'étude du comtisme, abstraction faite de l'islam, la pensée religieuse de Comte a été pratiquement censurée. Quand vous avez les étapes de la pensée sociologique de Raymond Aron, Comte, c'est l'anti-religion. Pourquoi ? Parce que même un prof comme Raymond Aron n'avait pas accès à cette partie censurée de la pensée religieuse de Comte.
J'ai cru comprendre que dans la compréhension de Comte de cette partie religieuse, c'est qu'il bâtit l'armature intellectuelle positiviste et sur l'agnosticisme, parce que pour lui l'athéisme avait une certaine limite, et il disait que le fait de ne pas trancher qui doit guider la métaphysique de son temps, de la sienne, et que du point de vue religieux du monothéisme judéo-islamo-chrétien, dans sa version islamique, le fait de tout laisser à Dieu qui sait tout, alors que l'homme, finalement, ne peut pas tout savoir, il est de fait agnostique sur beaucoup de choses, il y a un parallèle à établir sur l'importance de l'agnosticisme d'une manière générale et l'agnosticisme au sens où l'homme ne peut pas tout savoir, même s'il est responsable de ce qu'il fait.
Lui, il insiste sur l'agnosticisme, c'est-à-dire il ne faut pas essayer de connaître l'essence divine. Ça fait partie du raïb, l'inconnaissable.
Du mystère, de l'inconnaissable, de l'insondable.
Oui. Mais dans son dernier texte, il se réfère à un traité qui s'appelle les Lawa'ih. Pourquoi ? Parce que c'est le seul traité de mystique musulmane qui avait été traduit en anglais. C'est un afghan. un soufi afghan peu connu. Et donc, lui, il était intéressé par cette disposition des soufis à avoir le sentiment de la présence divine, même sans être capable d'exprimer ça verbalement.
Et comment et vous traduiriez lawaih? C'est un pluriel de la et ha.
C'est-à-dire des lueurs.
Ce sont des lueurs.
La hayalouhu.
On oublie de nos jours ces accointances, en tout cas intellectuelles, entre le positivisme de Comte et de ses disciples et successeurs et la métaphysique islamique.
Mais ils ont travaillé avec ce qu'il y avait, par exemple, Comte lui-même. Il y avait une seule référence sur l'islam. C'est le livre de Hölzner. Or, Hölzner, c'est quelqu'un qui a participé à un concours de l'éducation nationale. On leur a demandé d'écrire sur le sujet de leur choix. Il a écrit sur l'islam et le prophète. Et c'est un texte tout à fait correct. Hölzner n'était pas musulman. Il a utilisé la littérature orientaliste de l'époque en restant assez correct, sans prétention de donner des leçons aux musulmans. Il y avait une certaine... Parce que l'autre était de Montpellier, Comte. Or, la médecine d'Avicenne était enseignée à la fac de Montpellier jusqu'au XVIIIe siècle. Et on en parlait. C'est la ville où a étudié Qasem Amin.
Le moderniste...
Mais c'était un théologien de l'Azhar qui est devenu féministe. Tahrir al-Mar'a, la libération de la femme. Et donc on a toute cette histoire qui... Moi je me souviens à Harkoun, le regretté Harkoun, quand il fait partie de la commission Stasi, et il m'a demandé d'être auditionné. Je lui dis, ça sert à rien. Je lui dis, on a, d'ailleurs ça a fait gagner 9 points au Premier ministre de l'époque quand il a annoncé l'interdiction du voile. Mais il m'a dit, donne-nous ton avis. Je lui ai envoyé un texte par mail qu'il a distribué à tous les membres de la commission. J'ai dit, ce problème du voile peut être traité sans recourir aux interdits législatifs. Par exemple, en traduisant le livre de Qasem Amin et en le faisant éditer à 400 000 exemplaires pour permettre un dialogue entre les enseignants, les proviseurs, les parents d'élèves, les familles pratiquantes.
Non, mais c'est surtout dans les mosquées pour que les imams l'étudient davantage. Mansour Fahmi et Qasem Amin doivent être étudiés aussi dans les mosquées.
Absolument, mais Harkoun, ça l'a tellement intéressé. Il a même donné à Gilles Kepel qui a eu la bonté de le citer devant ses élèves de Sciences Po. J'ai eu des échos. Donc, si on a tous ces précédents, l'islam étant ancien ici, un phénomène qui a de l'ancienneté mérite d'être étudié d'un point de vue historique, et non pas d'un point de vue journalistique ou de politiste. Oui. Sous la pression des événements et le recul que donnent les études historiques permet de voir plus clair, d'introduire le maximum de raison dans des débats de plus en plus passionnés donc il y a plusieurs messages. On a plusieurs philosophes qui passent à la télévision et qui parlent d'islam. Il y en a 3 ou 4. Je pense qu'ils gagneraient à lire les textes de Christian Scherfis, qui n'était pas moins philosophe qu'eux. Ensuite, on a les intellectuels musulmans qui voulaient moderniser leur pays d'origine, au contact de la modernité, qui étaient ouverts à tous les dialogues. Mais ils ont profité de la possibilité de s'exprimer, de penser librement en France, pour renouveler la pensée musulmane. Donc, le courant assimilationniste intégral devrait renoncer à cette sommation de rupture des musulmans, le Coran assimilationniste n'accepte que les musulmans sans islam. Or, on a, dans les autres intellectuels, on a plusieurs traducteurs et commentateurs du Coran. Mohamed Tazrout, tu es en rupture avec sa famille pendant un demi-siècle, mais il a fini par une traduction du Coran qui reste à l'état de manuscrit.
Peut-être aussi, pour revenir à la fraternité musulmane, cette association, il y avait l'importance de l'art, vous l'avez dit. Il n'y a pas de confusion à avoir entre la fraternité musulmane et les frères musulmans, le frérisme.
Hassan al-Banna était dans les Langes, il avait à peine un an. je pense que les gens qui nous parlent de frérisme vont devoir expliquer pourquoi il y avait cette appellation. Pour un islam du plus pacifique, ouvert à tous les dialogues, qui devrait servir de point de repère aux jeunes musulmans d'aujourd'hui, dont on se plaint quand ils partent en Orient à la recherche d'études sur l'islam qu'ils ne trouvent toujours pas en France, malgré le nombre de projets présentés par Harkoun, Merad, Berk, etc. Ces intellectuels musulmans, moi j'en ai dénombré plus de 40. Ils peuvent faire l'objet d'un programme annuel d'études. On n'est pas obligé d'aller à Peshawar ou au Yémen pour étudier l'islam. On peut étudier à Paris même, si on exhume toute cette littérature d'une grande richesse.
Merci, merci infiniment, cher Sadr Selem, d'être venu nous parler de la fraternité musulmane comme dénomination de cette association d'intellectuels musulmans, dont les figures de proue sont Christian Scherfis, Étienne Diné, Ahmed Bahloul et Mahmoud Salem, pour ne citer que ces quatre-là, et d'autres bien entendu. Et cette association prônait l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'importance de l'art aussi. Et c'est de cette manière apaisée et instruite qu'il faudrait aplanir les difficultés liées à l'islam.
Ah, je voudrais ajouter que
je vous en prie.
Ce livre a été précédé d'un autre qui n'a pas respecté l'ordre chronologique. C'est les intellectuels du Centre culturel islamique de 1952 à Paris.
Ah ben, une élite. Autre fois, vous viendrez nous en parler.
C'est une élite beaucoup plus nombreuse et de niveau beaucoup plus élevé, puisqu'il y avait des universitaires, trois du CNRS. Mais ils ne savaient même pas que la fraternité musulmane avait existé. C'est parce qu'il n'y a pas de transmission d'une génération à l'autre. Et la Première Guerre mondiale, l'immigration ouvrière a produit une rupture, une pause de 20 ans dans la vie intellectuelle musulmane. Hamidullah, qui était le plus érudit de tous, avait entendu parler de la fraternité musulmane par Massignon, mais il confondait avec les nadis de l'association des ulamas d'Algérie.
Alors nous en parlerons une autre fois, si vous voulez bien nous donner de votre temps. Pour l'instant, nos amis auditeurs retrouveront l'émission, celle-là consacrée à la fraternité musulmane comme association, sur le site de France Culture, et comme ils pourront la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Chers amis auditeurs, vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son est Jean-Benoît Tétu et la réalisation est assurée par l'ami François Connac.